et on va vous présenter le quatrième et dernier projet Toxic City.
Alors, nous allons vous présenter notre jeu Toxic City. Alors, c'est un jeu de plateforme post-apocalyptique dont le but se résume à s'enfuir d'une ville contaminée par un gaz mortel et toxique qui a généré également des mutants. Alors, au cours de la partie, vous devrez sauter, attraper des bonus et vous battre pour enfin quitter la ville et finir le jeu. La tâche étant trop simple, nous avons décidé de vous rajouter un malus. Un chronomètre. À vous de réussir avec le meilleur temps. Alors, nous avions donc deux graphistes qui ne sont pas là, Nils et Milan. Deux sound designers, dont une est présente, Maeva et Mayan. Une game designer, Paola. Une level designer, Lucie. Le programme a été réalisé par Anastasia. Et moi, j'étais la narrative designer. Voilà, fin.
Merci beaucoup. Et merci à eux aussi qui ont été... J'ai une classe de troisième, je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi concentré, aussi sérieux, aussi travailleur en troisième. J'avais peut-être une mauvaise image de la troisième, mais en tout cas, j'ai été très impressionné. Merci beaucoup. On passe à la quatrième table sur un sujet qui nous paraît particulièrement précieux, qui sont les rapports entre écologie et jeux vidéo. Et c'est encore Erwan à la table avec Esteban Giner et Alexandre Pointé. On va donc commencer par le trailer de Seed of Resilience dont Alexandre va vous parler.
After a sinister disaster, we arrived on this island. Fishing was a good way to eat. We needed to build houses for the newcomers. After a while, we made our own village. But everything did not go as planned. We learned something important. The environment is the most important thing we have. We were not ready to start anew. What about you?
Donc c'est la présentation de Seeds of Resilience. Donc il est sorti en septembre 2019. Il est
juillet 2019.
D'accord. Non mais j'ai encore. Bref. Non, j'étais pas loin. Alexandre Pointet, merci d'être là avec nous. Ce jeu, que j'ai commencé à y jouer un peu hier. C'est un jeu qui se passe à l'époque du Moyen Âge, à peu près, enfin dans ces eaux-là. Et en fait, donc toute l'idée, c'est là où ça va rejoindre un peu ce thème, le jeu vidéo face à la crise écologique. C'est l'exploitation et la prise en compte finalement des ressources limitées d'un environnement et de comment est-ce que un être humain qui arrive là va pouvoir finalement utiliser son environnement, mais aussi avoir conscience de toutes les interactions, des ressources limitées, de ne pas trop faire quelque chose au risque de devoir s'adapter lui-même à des conditions qui sont pas évidentes. C'est à peu près ça ?
Oui, exactement. En fait, on cherche à travers ce jeu à créer un simulateur d'impact d'une micro-société par rapport à l'environnement et donc à mettre en valeur les impacts de cette société, faire un peu de pédagogie sur les causes à effet de chaque geste. Et pour que cette pédagogie elle puisse opérer, en fait, on a besoin d'être face à un environnement qui est limité. Donc on va se rendre compte que par nature, par définition, les ressources aussi sont limitées. et donc on va être confronté directement aux conséquences de nos propres choix. Donc il n'y a pas d'ennemi mis à part soi-même en fait. Donc on est explorateur de soi-même, de la manière dont on va créer notre village, créer des objets dans cet environnement limité.
Alors j'ai quand même présenté Esteban Giné, donc doctorant-chercheur à l'Université de Lorraine, au CREM, c'est ça ou sur ton blog, sur YouTube aussi, tu fais un peu de la pédagogie sur les réflexions autour du jeu vidéo, les réflexions sociétales, et évidemment l'écologie est un sujet qui est d'actualité. Je reviens juste pour pas quitter tout à fait, on reviendra forcément sur Seed of Resilience, mais l'objectif, enfin moi en tout cas ma perception quand j'ai commencé le jeu, c'est je me suis dit on retrouve cette capacité qu'on connaît bien avec des jeux même très anciens comme SimCity dont on parlait tout à l'heure, du jeu vidéo à nous proposer finalement de gérer plein de choses en même temps. Mais finalement, vu qu'il y a un aspect ludique qui permet de faire passer comme ça cet apprentissage, c'est-à-dire gérer énormément de ressources, énormément de données en même temps, essayer de trouver un équilibre, essayer de s'adapter en fonction des événements. C'est quoi ? C'est se servir du jeu vidéo pour faire prendre conscience aux joueurs qu'il faut faire avec des choses limitées, qu'il faut prendre en compte énormément de paramètres. C'est ça l'objectif.
Je pense que là où on s'est positionné, on parlait de ça tout à l'heure, est-ce que dans un projet, là c'est un jeu vidéo, mais ça peut être une entreprise, ou est-ce que justement il y a un fond personnel et donc des avis, des positionnements qui transparaissent à travers le jeu ? Effectivement, là, la chose centrale, c'est comprendre le pourquoi des choses. Mmh. Si on ne maîtrise pas le pourquoi d'une chose, le pourquoi d'un geste, le pourquoi d'un mot, on manque de potentiel en fait. Et aujourd'hui, c'est ça notre limite en fait, c'est avoir une difficulté à comprendre le sens profond qui se cache derrière des gestes du quotidien, et je dirais même une désincarnation de l'humain par rapport à son monde matériel, par lequel il ne fait que jurer, en fait, on ne jure que par la matière aujourd'hui, on veut des objets, on veut des maisons, des voitures, mais le pourquoi de toutes ces choses-là ne suscite que très peu aujourd'hui notre curiosité. Et c'est peut-être là où on pourrait commencer à faire un lien avec un risque apocalyptique, c'est parce qu'on n'a plus les objets de notre survie, les pourquoi dans nos mains. On a délocalisé tout ça.
En même temps, quand on est sur une île déserte de quelques centaines de mètres de circonférence, de diamètre, l'apocalypse, ça peut arriver vite. C'est-à-dire que l'apocalypse locale, c'est aussi ça, en fait. C'est présenter cette allégorie de mini-planète, de mini-environnement sur le concept d'une île déserte, où finalement, l'apocalypse, elle va arriver s'il n'y a plus de ressources, les personnages qui sont là ne survivent pas, et fin de la partie. C'est aussi une manière de simplifier le discours. Si vous ne faites pas avec vos ressources, vous n'y arriverez pas.
Oui, c'est ça. Redonner un peu de révérence à chaque objet, à chaque matière qui a été travaillée avec intention, avec des outils qui ont dû être eux aussi conçus avec précision, avec intelligence. Ouais, c'est ça. On a besoin de recapitaliser tous ces pourquoi, si on veut bien mettre le mot capitaliser quelque part. Peut-être que sur ce savoir-faire, ça serait intéressant.
Esteban, est-ce que, une question très générale pour commencer, est-ce que l'écologie est un sujet de jeu vidéo ? Non, mais c'est une question idiote, mais à la limite, on voit avec Seeds, le truc, c'est qu'il y a un côté presque exceptionnel. C'est autant faire de l'écologie le sujet central d'un jeu, si ça interroge, en tout cas si ça surprend quand on voit Seeds of Resilience, ça veut dire que ailleurs dans le jeu vidéo, on ne croise pas ça tous les jours.
Alors en fait, il y a, de manière générale, systématiquement, chaque jeu interroge l'écologie qu'il veut mettre en place. Par contre, chaque jeu ne veut pas forcément développer un discours propre à l'écologie, comme c'est le cas pour Seed of Resilience. Donc là, vraiment, il y a une première petite distinction entre les jeux qui vont simplement représenter une nature, soit une nature de droit, soit tout simplement une nature qui a été déjà appréhendée par des êtres humains, etc. Bon, voilà. Après, on va avoir donc des expériences plus ou moins, on va dire, plus ou moins sérieuses dans leur intention de vouloir co-construire un discours lors du moment de jouer. Et donc là, par exemple, on a le cas de Seed of Resilience, on a le cas, par exemple, de Echo, dans lequel, en fait, c'est un Minecraft. Pour simplifier les choses, c'est un Minecraft dont chaque partie en fait est limitée dans le temps. Et à la fin, il y a donc un cataclysme. Et l'objectif du jeu, c'est de voir comment on peut survenir, résoudre, se protéger contre ce cataclysme. On a aussi d'autres expériences encore plus sérieuses. Alors moi, quand les chercheurs et les chercheuses emploient le terme de sérieux dans appliqué au jeu, ça fait vraiment référence aux jeux sérieux, aux serious games. Donc ce sont des jeux qui ont une intention, qui sont soutenus soit par des institutions, soit par des groupes, des entreprises aussi, des assos, etc. Mais ce sont des jeux qui ont vraiment une intention marquée de soutenir, développer un discours précis. Et là, par exemple, on a un jeu aussi qui s'inscrit complètement dans cette démarche. C'est le jeu World Without Oil, donc qui est assez ancien maintenant, mais qui a été développé. En fait, c'est une espèce d'ARG, parce qu'il n'y avait pas vraiment de monde explorable numérisé, mais c'était en fait surtout un setting qui avait été proposé à des joueurs et des joueuses. Le setting était très simple. Demain, il n'y a plus de pétrole sur Terre. Qu'est-ce qui se passe ? Et pendant plusieurs dizaines de jours, il y a des milliers de joueurs et de joueuses qui ont, à travers des petites productions partagées sur Internet, mis en scène des scénarios, des solutions sur comment en fait ils gèrent l'après, le moment après où il n'y a plus de pétrole. Et donc là, on s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de solutions, de propositions de solutions. Toutes ne marchent pas, évidemment, mais on s'est retrouvé avec un corpus très très élaboré de scénarios. Voilà, qu'est-ce qui va se passer après que après qu'il n'y ait plus de pétrole? Comment les gens vont se comporter? Comment on va s'organiser, etc., etc. Et donc là, on a vraiment un ancrage, un objectif très très clair sur l'écologie.
Oui, il y a la phase des. C'est vrai que les serious games, c'est aussi. On connaît. Enfin, il y en a qui sont un message. Seeds of Resilience n'est pas un serious game. Enfin, ne rentre pas du tout dans ce cadre institutionnalisé. Justement, il y a les ressorts ludiques. Est-ce que la volonté de se lancer dans ce projet, qui est, je crois que vous êtes deux à l'origine, de faire un jeu vidéo sorti en 2019 à deux, c'est quand même une belle performance. Est-ce que la volonté de se lancer là-dessus, c'est lié au fait que vous ne trouviez pas ce genre de proposition dans les jeux qui existaient? C'était un manque ou c'est parti comment, cette idée?
Je pense que c'est la quête de toute une vie qui a trouvé des supports différents. Au début, je sais pas, je pense qu'à partir de 16 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la nature du monde et la direction qu'on empruntait, nous tous. Est-ce que on se sent même aux commandes de cette direction-là? Je pose la question aussi. Est-ce qu'on a un projet humanité? Est-ce qu'il y aurait un projet monde? J'en sais rien. Donc à un moment donné, la solution pour moi, c'était d'aller vers animer des ateliers auprès des jeunes pour parler de travail du bois, pour sortir la forge, pour faire ce lien de cause à effet entre là on met une température, on met un métal à partir de telle couleur, on va pouvoir le travailler de telle manière. À la fin, on va faire un ciseau à bois et on va bel et bien travailler le ciseau à bois. Donc là, ce lien de entre une théorie qu'on pourrait éventuellement trouver à l'école et une mise en pratique derrière, pour moi, crée des liens qui sont ultra importants dans nos gestes du quotidien. Après, je me suis senti un peu limité par le nombre de personnes que finalement je pouvais toucher avec ce genre d'atelier. Et donc il y a cet ami Antonin, donc programmeur, qui avait ce projet de jeu. Moi, je n'avais pas spécialement l'ambition de travailler dans le jeu vidéo, mais il s'est avéré que c'était un support qui était intéressant pour parler de ce genre d'idées de manière dématérialisée, chose qui est un paradoxe de parler d'écologie avec un support numérique, mais peut-être pas tant que ça au final. Et là, aujourd'hui, finalement, on a sorti le jeu. Moi, ça fait 3 ans que j'ai créé mon entreprise de production d'isolants biosourcés pour le bâtiment. Et donc, j'ai conçu mes machines. Donc, je continue à faire ces liens. Et là, je me dis, bon, ben voilà, un jeu, c'est bien. Le jeu, il encourage chaque personne, chaque joueur à comprendre des choses et ensuite à vite courir dans la forêt pour expérimenter ces choses-là, à s'intéresser au travail du bois, à s'intéresser au pourquoi des choses... voilà. Et là, après, je me dis, bon, il faut des matériaux, il ne faut pas juste des idées, il faut proposer des alternatives, je ne sais pas, au polystyrène massivement employé dans l'isolation aujourd'hui par l'extérieur, ce genre de choses. Donc, aller vers une sobriété technique. Donc, ma machine, au début, elle faisait 12 mètres de long, maintenant, elle tient presque dans mon sac à dos, elle fait 2 mètres par 1 m50. Et ça produit 3 fois plus vite. Donc en fait, on démontre que par une moindre quantité de matériel, on peut arriver aussi à une efficacité de système.
En plus, vous avez sur votre jeu, vous avez énormément bossé les outils et la construction. D'après ce que j'ai vu, vous avez cherché à être ultra réaliste dans la construction des outils en bois et des choses comme ça. Vous avez fait des modèles pour que ça marche. C'est vraiment...
Ça, c'est une volonté pour ce... Qu'on se rappelle aussi que construire une charpente, si on la fait en chêne, bon bah les outils, on va les réaffûter de nombreuses fois. Si on la fait en sapin, ou voilà, ça résistera bien aussi, mais on devra moins réaffûter nos outils. Donc est-ce que y a une temporalité aussi, travailler le chêne quand vous le faites vraiment, enfin vous sentez la matière. Il y a beaucoup plus d'efforts à fournir. Donc quand c'est une machine qui fournit l'effort. À la rigueur, c'est un peu, on paye la facture à la fin du mois, on ne se souvient plus trop de pourquoi c'est autant que ça. Mais la machine aujourd'hui s'est positionnée, on l'a laissé faire. Sans machine aujourd'hui, on n'a plus notre monde. Sans perfusion énergétique, comme dit Jean Covici, on ne fait pas 1% de tout ce qu'on fait aujourd'hui dans notre journée, dans notre vie. Donc en fait, effectivement, remettre le pourquoi de quelques éléments mécaniques fondamentaux, de multiplication de mouvements, de transformation d'un mouvement rotatif en mouvement alternatif, pour faire une scie par exemple, ça nous a semblé vraiment intéressant que ça soit ludique et que... Parce que l'image a une responsabilité aussi, en fait. Quand on voit quelque chose qui existe, forcément, on se dit, bon, bah, si ça existe, c'est qu'il y a des gens qui y ont réfléchi, donc ça doit être fondé. Peut-être je ne comprends pas tout, mais je vais me baser là-dessus. Et, sauf que des fois, il y a des erreurs. Si on regarde des bâtiments, si on regarde... Enfin, donc, ça, voilà, il y a cette responsabilité, quand on met une image dans le monde, qu'elle soit cohérente. Ouais.
Du coup... L'écologie, mais c'est assez amusant, mais c'est on arrive à faire quelque chose de ludique à partir de l'écologie. Parce qu'on est quand même dans une période aujourd'hui où on parle plutôt d'ayatollah et de gens qui sont tristes, hein, les écologistes. Donc c'est aussi un contre-pied. Ça montre que c'est un discours qui peut amener du jeu, qui peut amener de la réflexion, qui peut amener quelque chose de ludique aussi. J'ai l'impression d'être un tout petit peu hors sujet, mais c'est pas grave. Vas-y. Ouais.
En fait, il y a vraiment un propos qui est dans ce que tu as dit, Alexandre, qui était vraiment pour moi qui cristallise en fait quelque chose de très très intéressant. C'est qu'à chaque fois tu reviens sur la question du pourquoi, en fait, pourquoi on a tel objet. Et j'irais même plus loin encore. Mais je pense que tu le penses aussi. C'est comment, en fait, comment on construit un objet, comment on prend ce micro dans lequel je parle possible et comment on l'explique. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est dans les jeux vidéo, c'est que à la base, l'écologie dans les jeux, en fait, on s'en fiche. C'est une ressource à la disposition du joueur ou de la joueuse. Et en fait, ça s'inspire d'un courant, je te mentionnais hein, dans les notes, on présente les écologies des jeux vidéo comme des écologies des natures pastorales, dans le sens où elle est à la disposition, elle s'offre, mais vraiment avec ce verbe-là, elle s'offre à l'humain dont le but est d'appréhender, en fait, de s'approprier cette nature. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que dans beaucoup de productions, en fait, on simplifie et on cache, on masque les réalités écologiques et on cache aussi notamment les violences que les humains exercent sur les écologies. Par exemple, je vais citer un jeu que tu aimes beaucoup dans Red Dead Redemption 2. Donc justement, lui, il prend le parti inverse, c'est de représenter également les violences qu'on peut exercer. On voit notre personnage dépecer des animaux, par exemple. Mais ça, c'est pas du tout mainstream dans le milieu, dans les productions vidéoludiques, qui peut-être la norme ressemble bien plus au farm game qu'on peut trouver sur Internet. On va cliquer sur, par exemple, un champ et on va voir une incrémentation, plus 10 blés qui vont venir immédiatement venir remplir notre...
Et à la base, il y avait les jeux de stratégie aussi où les mines ou les forêts étaient juste des ressources avec... on envoyait ces paysans... la forêt, il ramenait du bois, la mine, il ramène la pierre. Donc en fait, la nature, c'est ce que tu dis, c'est la nature est une ressource.
Nature est une ressource et on ne représente pas la violence que l'on peut exercer à l'égard de cette ressource, que ce soit de la faune ou de la flore. Hein. Et moi, ce que je trouve du coup très intéressant avec Seeds of Resilience, c'est que le fait de prendre le temps d'expliquer le pourquoi, le comment, on conscientise aussi ce que ça peut être en fait de s'approprier. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal hein, de s'approprier la nature, mais ça permet de conscientiser en tout cas ce que cela représente effectivement. Alors peut-être ça reste une métaphore, hein, Seeds of Resilience, ce n'est pas la réalité totale, mais ça permet de mieux appréhender cela.
Et au moins se rappeler de l'effort que ça représente en fait, parce qu'encore une fois... Quand c'est la machine qui travaille, c'est beaucoup plus simple. Il y a un rapport de 1 pour 200 entre un effort organique et puis un effort mécanique, généralement. Donc en fait, on a à disposition un pouvoir incroyable grâce à l'électricité, grâce au pétrole. Si ça s'arrête, qui on est, nous humains, en fait, et comment on répond à cette question-là, et quel est le projet de l'humanité, enfin, c'est encore plus compliqué à répondre. Donc en fait, effectivement, on a rédigé pas mal d'articles du coup qui mettent en lien un aspect du jeu et des dessins de Francesco Corni notamment, qui a fait énormément de travaux sur la didactique du bâtiment depuis l'âge romain jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc il a fait beaucoup de dessins de coupes de bâtiments, de coupes d'ateliers. Et donc après on mettait toujours une expérience réelle. Donc, par exemple, quand un jour on s'est mis à deux, on a abattu un châtaignier et on a fait une poutre de 15 cm par 15 sur 4,50 m de long, donc ça nous a pris 8 heures, donc 4 heures chacun. Quelqu'un qui était chevronné dans le métier, il faisait deux poutres par jour, à peu près, il y a 400-500 ans, avec du coup la hache, la doloire, le cordeau, enfin des outils qu'on appellerait rudimentaires aujourd'hui, mais pour le coup un savoir-faire qui était beaucoup moins mécanique et beaucoup plus dans les mains de la personne, de l'artisan à l'époque. Et donc ça, aujourd'hui, quand on voit une scierie qui va sortir des milliers de mètres cubes de bois déjà équarris, déjà tout prêt à l'emploi aujourd'hui, on a perdu pied par rapport à cette notion d'effort, ce regard, cette analyse de la matière, en fait, ce toucher qui renseigne sur la nature profonde de la matière, ce qu'on va pouvoir en faire.
Et donc, pour revenir sur le thème de fin du monde, hein, je rappelle qu'on est en 2020, donc ce serait temps de y aller. Non, mais parce que on a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui se passent après la fin du monde, enfin post-apocalyptique. Qu'est-ce qu'ils disent de... Parce qu'on l'a dit au tout début, je crois, souvent c'est l'être humain qui est responsable, au moins il y a un côté assez réaliste dans ses propos. Très souvent, on est à la limite de l'accident, c'est-à-dire la guerre nucléaire, le virus qui est sorti d'un laboratoire alors qu'on ne prévoyait pas, quelques mutants, quelques morsures zombies, ce genre de choses. Mais en fait, à posteriori, ça dit quoi de la vision de l'écologie, enfin de ce genre de choses, avant et après l'apocalypse ? Et c'est vague. C'est vague, hein, mais...
Non, mais en fait, c'est la façon... C'est vrai que si on regarde les... on a l'impression, si on regarde les dernières années, qu'il y a eu une explosion des jeux qui proposent leur environnement dans un contexte post-apo. Alors, je ne vais pas dire là maintenant que c'est effectivement la vérité, hein, ça je ne sais pas. Mais par contre, il y a eu en tout cas une médiatisation très forte et aussi par les studios, une récupération très forte de ces thèmes. On l'a vu dans Horizon Zero Dawn, on le voit dans le dernier Zelda Breath of the Wild, on le voit également dans Death Stranding, etc. etc. En fait, le post-apo, et ça a déjà été évoqué tantôt, c'est que c'est un imaginaire qui fait éminemment référence à une espèce de ressenti général que l'on pourrait, en tout cas, avoir, on va dire, dans les sociétés, dans les pays occidentaux. Je ne vais pas parler pour les autres, bien sûr. Et donc ça, c'est très intéressant de positionner en fait le post-apo comme en fait dans les jeux vidéo, hein, de positionner ce post-apo comme en fait un objet qui fait référence à un besoin d'imaginaire de notre part. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90 où on se posait encore la question du réchauffement climatique. Et on appelait ça réchauffement climatique à l'époque. On est dans une acceptation de ce phénomène, alors, bon, de manière générale, on va dire, dans les populations. Et donc, en fait, les récits post-apo arrivent justement pour combler ce besoin de se dire « Mais ok, mais on sait que la fin du monde, elle est plus ou moins rapprochée dans le temps. Qu'est-ce qui se passe après ? On a besoin de ça. » Alors, ça peut être pour se rassurer. Ça peut être aussi tout simplement pour imaginer les futurs. Par exemple, tu as tout un mouvement nord-américain autour du survivalisme, où tu as des gens qui attendent la fin du monde pour se dire « Ah bah super, justement, je vais pouvoir mettre à... je vais pouvoir utiliser mes compétences que j'aurais développées pour faire des maisons en bois, etc. etc. » et en fait, bah, voilà, en fait ça répond vraiment à ça. Et puis après, bien sûr, tu vas avoir une pléthore de jeux, de contextes, de raisons, de mondes post-apo, plus ou moins décevants, déceptifs, mais tu vas aussi avoir du positif. Hein. Par exemple, on a parlé hein, de tout ce qui est post-apo, punk, rétro-futurisme, etc., qui peuvent être perçus comme assez pessimistes, comme des futurs pessimistes, mais tu as aussi tout un besoin exprimé dans la littérature, dans les jeux, dans les médias, autour du solar punk, autour du hope punk, dont les représentants peuvent être, par exemple, là, la série She-Ra de Netflix. Et donc là, en fait, c'est un monde qui a été ravagé une fois, mais on retrouve des personnes heureuses quand même après cet apocalypse. C'est le cas dans Breath of the Wild. Hein.
Je me faisais quand même la réflexion sur le statut de l'écologie après l'apocalypse. Et en fait, on est dans un truc très très binaire, c'est que grosso modo, soit la nature est complètement grillée, à ce moment-là on peut plus faire, c'est foutu, de toute façon il faut faire sans, soit elle a repris ses droits, à ce moment-là il n'y a plus à la défendre parce qu'elle est, de toute façon, elle a gagné. Du coup, en fait, après l'apocalypse, il n'y a plus d'écologie.
Il y en a forcément une différente parce que oui. Quand on parle d'écologie, bon bah voilà, c'est mais par contre on va, bah, comme tu l'as dit, alors c'est peut-être pas binaire mais c'est plus un continuum ou un spectre de possibles, parce que ben bah, par exemple tu prends Death Stranding. Donc Death Stranding impose son lore, son monde explorable dans un monde complètement c'est même pas une question d'être en ruine, c'est qu'il est complètement vide, asséché, il y a plus rien en fait à la surface, hormis quelques spectres qui se baladent et quelques êtres vivants. Mais bon, sinon il y a aucun animal, par exemple, dans Death Stranding. Mais après, tu vas avoir d'autres expériences comme Horizon Zero Dawn qui vont proposer une autre vision et de l'écologie, qui va être dans une espèce de simili-fusion entre la machine et la faune ou la flore. Et donc là, on est dans une autre perspective. Dans Breath of the Wild, on est dans une sorte de statu quo. Parce que Ganon a ravagé Hyrule, il contrôle du mieux qu'il peut le château, mais finalement les autres populations, les autres villes sont restées globalement, n'ont pas particulièrement développé leur ville ou quoi que ce soit.
Une question que je me posais aussi, c'est que ça fait un peu plus d'un an du coup que Seeds est sorti. Est-ce que la réaction des joueurs, ça a été quoi la réaction des joueurs par rapport à votre ambition originale, en tout cas ce que vous vouliez faire passer comme idée? Est-ce que vous avez eu des réactions de joueurs qui vous ont conforté là-dedans ou,
Oui, on a pu le voir beaucoup, surtout dans les salons, parce que c'est là où on arrive à parler vraiment avec les gens et où ils nous transmettent ça en profondeur. Après, je pense qu'il faut vite se détacher de... C'est comme je pense un professeur, s'il fait un cours, pour moi, ou du moins quand je faisais des ateliers auprès des enfants, j'étais obligé de me détacher du résultat qui était vraiment... mémoriser dans chacune des personnes, parce que certains vont retenir, je ne sais pas, la manière de préparer le feu, d'autres vont retenir la fascination de voir un métal rouge, d'autres... Mais ça, c'est incontrôlable, puisqu'on est face à heureusement, des gens qui ont des points de sensibilité différents, et c'est ça qui crée la richesse. Donc en fait, on ne peut que proposer. Après... proposer et puis prier pour que l'essence qu'on a injectée dedans puisse parler d'elle-même au bout d'un moment. Mais bon, voilà.
Et vous avez eu des retours réels, spécifiques de joueurs qui vous ont touché ou qui avaient compris un peu le message du jeu?
Oh bah oui. 99,9% des gens, des retours qu'on a eus, ils étaient très, très, très positifs, très encourageants, que ce soit d'un point de vue des parents qui, enfin, ils sont face à un jeu où il n'y a pas de notion d'ennemi ou du moins pas de notion de développement au dépend d'eux. Mm-hmm. Là, c'est un développement, c'est un co-développement. Si le but du jeu, c'est d'harmoniser l'humain avec son environnement, en fait. Donc il n'y a pas de notion d'ennemi. Donc rien que ça, déjà, ça fait parler. Après, oui, globalement, là, on a perdu un peu pied, parce qu'on a passé les 16 000 ventes. Donc avant, on suivait à peu près les avis et tout. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Mais oui, c'est vraiment positif. Il y a une rupture. Ça apporte quelque chose de différent.
Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a quelques questions, peut-être qu'il y a quelques interrogations sur la crise écologique et les jeux vidéo.
Pour respecter le timing, on prendra deux questions. Je suis désolé, on est très dur. Mais... Il y avait d'autres questions qui étaient... Vous êtes la deuxième, alors je vous laisse la première.
Alors, merci beaucoup pour la conférence, encore une fois, c'était super intéressant. Après, je vois que vous êtes beaucoup intéressé sur la question en fait, des questions écologiques dans le jeu vidéo même, mais le support du jeu vidéo, c'est aussi quand même quelque chose qui pose problème dans l'écologie. Moi, je suis étudiant en design, et c'est la question que je me pose en ce moment. J'essaie de réfléchir à comment le jeu vidéo pourrait évoluer et pourrait ne pas disparaître si on avait par exemple une crise écologique. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur cette question-là aussi. Parce que quand on en parle par exemple avec des gens qui sont... J'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens sur des profils assez différents. Et en général, je vois qu'il y a deux profils qui se démarquent. Il y a le profil du technicien pur qui dit qu'on va continuer à évoluer dans la montée et on va réussir à faire des objets qui sont de plus en plus performants et on va arriver à des jeux vidéo qui consomment très peu. Et il y a aussi l'autre vision qui est partir sur de la low-tech, sur une remise en question de notre course à la puissance, etc. Donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur cet avis-là aussi, parce que l'environnement vidéoludique, c'est quelque chose, mais le support en soi est aussi à remettre en cause, je pense.
C'est une vraie question, et même aujourd'hui, donner une définition à l'écologie, j'ai beau travailler là, ça fait 6 ans du coup que je suis sur ce projet d'isolation biosourcée pour le bâtiment, tout un chacun me qualifierait d'un super écologiste. Moi je sais pas ce que c'est écologie aujourd'hui, parce que toutes les entreprises aujourd'hui ont un logo avec une feuille verte quelque part, dans tous les discours on en parle, après moi je questionne la profondeur de cet investissement-là. Moi, ce que je peux dire, c'est par exemple, l'année dernière, j'ai fait mon potager sur mes déchets industriels. Voilà, donc ce qui sort de mon entreprise, ou du moins les matériaux que je construis, je peux faire mon potager et dessus. Voilà, donc ça, est-ce que c'est écologique ou pas, j'en sais rien, mais je trouve que ça, c'est un peu plus concret. Après, le jeu vidéo, peut-être que c'est quelque chose de notre époque aujourd'hui et que demain, il y aura des problématiques différentes parce que peut-être il y aura une restrictions énergétiques, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est un support qui existe pour transmettre des informations. Peut-être oui, pour vivre des expériences profondes qui vont nous faire réfléchir. La profondeur qu'il y a derrière ça, c'est de reprendre ses outils et de se mettre au travail. C'est-à-dire de se remettre à construire sa maison, se remettre à pénétrer les problématiques qui nous entourent, les problématiques matérielles, pas seulement les problématiques de survie, mais les problématiques de notre monde de tous les jours. On doit se réincarner dans tout ça et reparticiper au maximum, en fait. Voilà.
Alors, concernant les jeux vidéo, il y a quand même, peut-être c'est une bonne chose déjà, mais vous l'avez suggéré hein, dans votre question, hein, c'est de vraiment déjà envisager qu'il y a plusieurs trajectoires actuelles de développement. Et par exemple, la trajectoire de ce qu'on va appeler très génériquement les jeux indés qui pèsent 100 et quelques mégaoctets que l'on peut télécharger sur une plateforme comme Itch, ne va pas être la même que les jeux triple A ou quadruple A maintenant, comme certains aiment bien en parler, vont se développer à l'avenir et qui requièrent une quantité de serveurs, etc., une connexion permanente à une infrastructure comme les réseaux, etc. Donc vraiment, il y a plusieurs trajectoires. Honnêtement, des recherches qui existent actuellement sur le sujet, c'est éminemment controversé sur, par exemple, est-ce que le jeu en streaming a un impact supérieur à un jeu en boîte qu'on installerait sur sa console. Alors moi, hein, notamment dans le cadre d'un petit travail de recherche que j'avais mené en collaboration, on avait estimé que c'était, on avait tenté avec quelques pairs d'estimer en fait tous les actants d'une chaîne nécessaire pour rendre possible un jeu en streaming et que montrer que ça demande énormément d'acteurs en fait pour pouvoir jouer par exemple sur Stadia. Ça demande vraiment beaucoup de gens et beaucoup d'infrastructures, etc. Et on s'était dit, hypothétiquement, là, on peut clairement supposer que le jeu en streaming, clairement, ça a un impact bien plus considérable que, encore une fois, par exemple, un jeu AAA qu'on achèterait en boîte et qu'on installerait chez soi. Mais c'est un sujet qui est quand même controversé. Il y a des études qui vont vous dire, si vous jouez en streaming, la batterie de votre smartphone, par exemple, va être plus pérenne. Et c'est des études qui font sens. Et donc les conclusions de ces études vont vous dire, regardez, comme en fait tout se passe sur serveur, vous allez moins charger moins souvent votre smartphone. On reste dans un cadre très contrôlé par des tests scientifiques avec des cadres très précis qui ne tiennent pas compte de la réalité des choses, et probablement que la réalité c'est que si vous n'utilisez pas votre batterie de smartphone pour jouer, vous allez l'utiliser pour autre chose. Donc dans tous les cas, voilà. Donc c'est, y a vraiment plusieurs trajectoires, et ça c'est important de toujours de le mettre en perspective quand même. Et même en fait, même pour les jeux, ce qui va être les jeux low tech, par exemple, on peut considérer les initiatives de Nintendo pour l'usage du carton comme des formes de jeux low tech. Oui, mais ça nécessite en même temps, ça sollicite toute une chaîne de production du carton pour avoir les trucs parfaits qui se montent bien, etc. Donc en fait, depuis ma perspective, il n'y a vraiment pas de bonne solution qui pourront dire oui, mais les jeux, en fait, il y a des jeux qui vont avoir un label, quoi qu'on dise des labels, mais qui vont avoir un label écologie durable, ça c'est très compliqué. Ouais.
Et puis juste d'une manière généraliste pour ajouter un truc, c'est que on va pas se cacher derrière notre petit doigt, le jeu vidéo a toujours été le cheval de Troie de l'obsolescence programmée de l'industrie technologique. Je l'ai dit une fois, c'est pas mal, mais c'est à cause du jeu vidéo qu'on a voulu changer d'ordinateur tous les 2 ans à une époque, peut-être tous les 3 ou 4 ans maintenant. C'est à cause du jeu vidéo que les marchands de cartes graphiques aujourd'hui, Nvidia vient de présenter il y a 2 semaines sa carte graphique qui est celle qui consomme le plus d'électricité de son histoire. C'est un truc, on est dans une crise écologique, effectivement, les progrès technologiques pourraient permettre de faire les mêmes performances que la génération d'avant en consommant moins. Mais elles peuvent permettre de faire beaucoup mieux en consommant beaucoup plus. Laquelle des deux solutions choisit-on ? Nvidia, comme tous les autres, comme PlayStation, comme Microsoft, comme tout ça, vont choisir la performance, vont choisir d'afficher plus de polygones, de pouvoir refléter le personnage dans la flaque d'eau qui est par terre, qui s'appelle le ray tracing, qui est la nouvelle tendance. Mais pour ça, il faut des cartes plus puissantes. Et les cartes plus puissantes, la RTX 3080 qui vient d'être annoncée, elle pète des scores incroyables en termes de consommation. Et il va falloir que les gens changent leur ordinateur, changent l'alimentation de leur ordinateur, parce que maintenant, il faut une alimentation de 700 watts, je ne sais pas trop quoi, pour que ça tourne, etc. Donc, forcément, le jeu vidéo, c'est le cheval de Troie. C'est pour faire tourner des jeux comme Cyberpunk 2077 qui va arriver et tous les autres qui vont arriver derrière, évidemment en 4K, parce qu'autrement, ce n'est pas drôle, que les gens vont changer leur matériel. Donc, le jeu vidéo a un rôle majeur de cheval de Troie là-dedans. Après, voilà.
Il y a peut-être aussi, pour compléter en fait nos deux propositions de réponse, je pense que c'est important aussi de contextualiser, par exemple.
Moi, je le fais pas.
D'accord. mais de contextualiser, tu vois, par exemple, de comparer la consommation énergétique du jeu vidéo, par exemple, à la consommation énergétique de se rendre tous les jours au travail avec sa voiture. Etc. plutôt qui reste une solution privilégiée, même si avec la pandémie actuelle, on a de plus en plus mis en place des moyens pour faire du télétravail. Donc je pense quand même il faut contextualiser par rapport à ça, et peut-être qu'après vous, moi je vais pas vous dire ce qu'il faut faire en tant que joueur ou joueuse éthique, ça je vous laisse votre propre chemin se faire, mais par exemple il peut y avoir des choix que vous feriez, par exemple plutôt que de privilégier l'achat d'une console qui va être périmée très rapidement, choisir déjà pour des objets informatiques qui permettent une pléthore d'actions et de choses réalisables à partir de... Avec une console, vous ne pouvez que jouer aux jeux vidéo, même si vous pouvez consommer Netflix, etc. Mais avec un ordinateur, par exemple, vous pouvez aussi travailler, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez faire, etc. etc. Donc il y a plein de petites questions aussi à se poser par rapport à cela, et bien sûr à réencastrer. De toute façon, le contexte global, le jeu vidéo, ça fait partie d'un écosystème médiatique qui rejoint Internet, qui rejoint la consommation de séries, de médias, de machins, etc. Donc il faut vraiment adopter vraiment cette approche complexe pour ensuite interroger quel comportement vous, en tant que joueur et joueuse, vous allez privilégier.
Et ce que je rajouterais pour finir, c'est tout a un impact. Et on est à l'époque où c'est effroyable à quel point chaque chose, la moindre petite chose, a un impact qui peut être énorme. Et je vais donner 2 exemples. Hier matin, on était à 3, on a monté une charpente, du coup, donc c'était juste 6 poteaux, donc c'était 3 fermes. Ça faisait 8 mètres par 4. 3 personnes, plus un tracteur. Sans tracteur pour lever le poteau, ne serait-ce qu'un poteau de 20 cm par 20 sur 4,50 m de haut. Sans tracteur aujourd'hui, non, on aurait mis 3 jours parce qu'on aurait, ça aurait été aussi un chantier que d'installer des éléments de levage et tout ça. La deuxième chose, c'est on a construit 2 habitats préfabriqués en atelier, donc de 25 mètres carrés chacun, ossature bois, bardage, Lambris intérieurs, planchers, tout ça en bois. Le fait d'avoir acheté du bois brut et de l'avoir raboté, de l'avoir dégauchi, de l'avoir passé dans la toupie à l'entreprise parce qu'on a ces trois machines, où il y a la scie à ruban aussi, on se rend compte qu'un bout de bois qui a énormément la classe aujourd'hui, hein, un bout de bois, on en met partout, on trouve que c'est le symbole de l'écologie. Moi, je me rends compte que le bout de bois qu'on a dans la main qui est raboté 6 faces très propre, il a cet impact aussi du fait qu'il y a des machines derrière, il faut les entretenir, il faut les réparer, il faut faire venir des pièces, il faut affûter les lames, il faut les stocker, il faut alimenter en triphasé, il faut payer la facture, il faut produire l'électricité, tout ça. Donc en fait, et pourtant le bout de bois il a une idée très positive dans la construction, et, parce qu'il il correspond à l'image d'un très faible impact sur l'environnement. Et bon, voilà. En fait, on est en train de se rendre compte de à quel point on est lié à la machine, à quel point il y a des impacts, et on est en train de chercher la juste mesure. Voilà.
Oui. Donc, sur cette question de la complexité et de la manière dont on peut rendre compte de ces nombreuses interdépendances à travers le jeu vidéo, donc pour partir plus dans les contenus. On voit beaucoup de jeux de survie, beaucoup de systèmes de gestion comme Oxygen Not Included ou des choses qui nous envoient dans des univers très raréfiés. Mais on voit assez peu finalement de jeux vidéo qui traitent de cette complexité à portée de main, c'est-à-dire de la consommation, de ce qui se passe aujourd'hui, un petit peu plus documentaire. Et de ce point de vue, c'est une question un peu vague, mais quelle passerelle peut-on créer entre... les nécessités contemporaines, la sensibilisation, cette responsabilité croissante que l'on a tous, et en même temps le plaisir de jouer, de décider, d'être responsable aussi, pour comprendre. Et, voilà, on a l'impression que les gens s'enfuient un peu dans du post-apo, comme si voilà, c'était plus facile d'être après qu'avant, alors qu'on est dans une période que certains disent pré-apocalyptique, donc c'est assez passionnant, et c'est peut-être un jeu en soi. Voilà, c'était une réflexion et une question. Merci.
Je vais laisser la parole, mais parce que je suis un peu bavard, mais c'est une belle réflexion. Moi, j'ai toujours trouvé, ça fait à peu près 20 ans que je fais critique de jeux vidéo, et c'est vrai que sur certains jeux que j'aime beaucoup, auxquels j'ai beaucoup aimé jouer, à un moment, on finit par se poser des questions parce qu'on se rend compte qu'on est quand même un bon gros capitaliste qui adore ça, en fait, hein, parce que quand même la base de augmenter le nombre de ressources, de gagner toujours plus, d'accumuler, de récupérer tout ce qu'il y a autour de soi pour son bénéfice personnel, et puis alors les autres, rien que dalle. Et ça se retrouve partout, ça se retrouve dans Football Manager, que j'adore, que ça se retrouve dans les SimCity, que j'aime beaucoup, dans les civilisations, et même aujourd'hui encore dans tous les jeux, parce qu'il y a tous les systèmes de loot, de craft, de trucs comme ça, qui finalement, si en allégorie, on peut retrouver ces mêmes notions-là là-dessus, où on récupère tout ce qu'il y a aux alentours. On voit que ça marche. En termes ludiques, on va pas se mentir, c'est super. Et ça marche. La récompense, je ne sais pas si c'est un truc qui touche le système du cerveau qui a lieu à la récompense, qui donne une satisfaction primaire comme ça. Quand on gagne plus, et ben on est tout de suite content. Et peut-être qu'il faudrait trouver un système de récompense lié à l'équilibre naturel de la nature, mais peut-être qu'elle ne donne pas autant de récompense que les millions de pièces d'or qu'on peut récupérer quand on ouvre un coffre, je ne sais pas. C'est moins immédiat, c'est ça peut-être.
Je suis désolé, je coupe un peu, on est un peu hors délai. Merci beaucoup à tous les trois, je vous laisse les applaudir.